Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de ce 160e numéro de Métropolez-vous, pour lequel je suis très heureux de retrouver les fidèles de cette émission et de saluer les auditeurs qui la découvrent aujourd'hui, alors que la vie reprend petit à petit son cours normal, même si nous devons toujours respecter un couvre-feu, et alors que l'été s'installe déjà à Toulouse, j'ai souhaité revenir sur un événement passé sans doute inaperçu pour la plupart d'entre vous, les 100 ans de Toulouse Métropole Habitat, le 2 avril dernier. Je ne sais pas jusqu'à quel point l'Office public de l'Habitat de Toulouse Métropole est connu des citoyens métropolitains, mais je suis prêt à parier que rares sont ceux à savoir que ce vénérable établissement, fondé le 2 avril 1921 sous un autre nom et centenaire, il a pourtant accompagné et continue d'accompagner l'évolution de l'habitat social et de l'urbanisme à Toulouse et dans la métropole. Cette émission va être l'occasion de vous raconter son histoire, les époques qu'il a traversées et le rôle qu'il a joué et continuera de jouer sur notre territoire. Nous allons également vous présenter son organisation, son fonctionnement et les missions qu'il assure de nos jours. Tout de suite, retour sur 100 ans d'histoire de Toulouse Métropole Habitat. Pour revenir sur ce siècle d'histoire de Toulouse Métropole Habitat et sur Toulouse Métropole Habitat aujourd'hui, je reçois son président Bertrand Serpe, que je remercie d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue Monsieur le Président. Je précise que vous êtes également conseiller municipal délégué de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole en charge de la transition digitale. Je propose pour commencer que nous rappelions d'abord ce qu'est précisément Toulouse Métropole Habitat, le rôle et les actions que mène cet établissement sur le territoire métropolitain, parce qu'ils sont vraiment fondamentaux dans le domaine de l'habitat social.
Bonjour et merci beaucoup de votre invitation. Donc, l'office public d'HLM de Toulouse Métropole, Toulouse Métropole Habitat, est notre office leader sur la métropole qui loge aujourd'hui 40 000 personnes avec plus de 18 000 logements sur la métropole et qui est aujourd'hui le principal office d'HLM public métropolitain. C'est aussi, vous venez de le dire, le centenaire. Donc, c'est une grande maison qui compte plus de 380 collaborateurs avec 3 agences et dont les métiers sont effectivement de loger, de développer de nouveaux logements sociaux, mais aussi de rénover, de réhabiliter le parc et le patrimoine existant qui est assez important sur la métropole toulousaine et puis de prévoir aussi l'avenir parce que je crois qu'on va en parler pour effectivement avec les ambitions que nous avons sur le logement social sur la métropole toulousaine.
Toulouse Métropole Habitat, premier bailleur social d'Haute-Garonne, troisième d'Occitanie tout de même. Peut-être aussi une précision pour nos auditeurs. Le mode de gouvernance et la relation avec Toulouse Métropole, de Toulouse Métropole Habitat, quels sont-ils précisément ?
Alors, Toulouse Métropole Habitat, j'ai été élu président du conseil d'administration, donc il y a effectivement des représentants des locataires, des représentants des différents syndicats, il y a des élus métropolitains, et tout ça donc est dirigé de façon complètement indépendante, de façon transparente, et c'est effectivement un élu métropolitain qui le préside, puisque c'est moi qui ai été élu au conseil d'administration en septembre de cette année.
Voilà, juste un rappel, donc c'est l'application de la loi Allure de 2014, puis ensuite un arrêté préfectoral du 4 novembre 2016 qui est venu rattacher Toulouse Métropole Habitat ou l'habitat de Toulouse à Toulouse Métropole.
Tout à fait.
Donc l'histoire de Toulouse Métropole Habitat commence le 2 avril 1921 sous un autre nom, on va le voir. Alors pourquoi l'établissement est fondé précisément à ce moment-là, juste un petit peu d'histoire tout de même pour qu'on sache comment tout a commencé.
Tout a commencé par une décision du conseil municipal, la nécessité effectivement de créer des logements sociaux, ça s'appelait l'office des habitats bon marché à l'époque, donc c'était le 2 avril 1921, et il y avait très peu de logements, une centaine de logements à l'origine, et du coup ça a évolué à travers les années, les différentes parties, et on peut peut-être distinguer 2-3 parties, avant-guerre et puis après-guerre, donc avant-guerre progressivement avant la guerre 39-45, effectivement l'office d'HLM s'est développée progressivement avec plusieurs décisions du conseil municipal. Et puis ensuite, donc, il y a eu finalement la guerre, la nécessité aussi après la guerre de reloger d'un certain nombre
de reconstruire
bien sûr, et de loger des personnes qui en avaient besoin. Donc la nécessité de documenter cette politique-là. Et puis il y a eu le fameux hiver 54 avec l'abbé Pierre, où là où il a fallu notamment construire pour les plus nécessiteux. Donc c'était une des vocations de l'office public d'HLM de l'époque. Et on a la période des années 60-70 et puis les temps modernes avec les années 2000, et surtout la présidence de Françoise de Vérinas, qui a été, je le rappelle, donc présidente de l'OPAC.
Ce qui s'appelait l'OPAC à l'époque,
de 88 pendant 20 ans jusqu'en 2008, et notamment avec 2001 la crise avec AZF, mais on aura l'occasion d'en parler, je pense, qui a été vraiment aussi une phase importante de l'évolution de cet office, puisqu'il y a énormément de logements qui ont été détruits. Il y a eu 60 millions d'euros qui ont été investis à l'époque pour la réhabilitation, la reconstruction, et je me rappelle, j'étais moi-même jeune conseiller municipal et j'ai participé dans ces quartiers avec les équipes et toutes les équipes de Toulouse Métropole Habitat, donc qui s'appelait à l'époque, qui était l'OPA, et ainsi que les élus sur comment reloger suite à cette catastrophe l'ensemble des populations qui étaient sinistrées.
Oui, puisque 10 000 logements de l'office avaient été soufflés par l'explosion, et donc il a fallu investir beaucoup. Il y a eu 60 millions d'euros qui ont été nécessaires pour réparer, évidemment. Voilà. Et les employés de l'office ont tout de suite été sur place auprès de ceux qui se sont retrouvés avec des logements endommagés, voire détruits. Est-ce qu'il y a eu des grandes réalisations à Toulouse dans certains quartiers qui sont dues à ce qui s'appelait à l'époque l'OPAC ou autre chose? Je pense au Mirail peut-être, ou à d'autres.
Oui, bon, il y a eu toute la période de construction des grands immeubles, des édifices du Mirail, qui aujourd'hui d'ailleurs font partie d'un grand programme de l'ANRU, d'ANRU 2 même, pour l'agence de réhabilitation urbaine, pour effectivement réhabiliter et reconstruire le Grand Mirail. Donc Toulouse Métropole Habitat est très impliquée sur ces sujets-là, avec des millions d'euros qui sont investis, avec aussi bien sûr la participation de l'État. Une des premières cités, c'est peut-être qu'on peut noter, c'était à Bonnefoy, la cité à l'époque avec l'architecte Montoriol, donc c'est une cité art déco années 20, années 30, qui a été construite à peu près à l'époque, où aujourd'hui on va dire des appartements ont été réhabilités, et on se trouve dans un ensemble architectural qui est plutôt sympathique, sur de l'ancien, sur le faubourg Bonnefoy, et où les habitants aujourd'hui aiment bien rester. Ils sont là depuis souvent très longtemps et sont restés dans cette résidence qui est devenue, j'allais dire presque, une œuvre d'art. Voilà, c'est un des bâtiments emblématiques, mais il y en a d'autres. Il y a une grande tour à Bagatelle aussi qui fait 18 étages et qui est en cours aussi de réhabilitation. Et puis il y a l'envie et peut-être aussi la volonté politique aussi de travailler sur des réhabilitations beaucoup plus avec les immeubles qui sont beaucoup plus végétalisés. Aussi transformer nos immeubles et réhabiliter de façon à ce que, avec la transition écologique, ils soient conformes effectivement aux nouvelles normes environnementales. Tout ça fait beaucoup d'ambition et de travail pour l'office public d'HLM.
Donc l'histoire de Toulouse Métropole Habitat se confond avec l'histoire de l'urbanisme et même de l'architecture à Toulouse et autour. On en arrive à ce qu'est aujourd'hui Toulouse Métropole Habitat et les missions, les objectifs que poursuit donc l'office. Le contexte, c'est la métropolisation, la forte hausse de la démographie métropolitaine et donc un contexte, comme vous le rappeliez, de contraintes environnementales de plus en plus grandes. Quels sont les défis, les enjeux principaux du 21e siècle, des 10, 20 ou 30 ans à venir pour Toulouse Métropole Habitat, parce qu'il faut se projeter assez loin toujours.
Alors, vous avez parfaitement raison. Alors, autant la précédente mandature 2014-2020, c'était la présidence de la métropolisation, puisqu'il y avait un enjeu de cet office public d'HLM de le rendre métropolitain. Autant cette mandature, celle qui est la mienne, donc 2020-2026, c'est une ambition triple. La première, c'est d'abord construire de nouveaux logements sociaux. Parce qu'on le voit bien, notamment avec la crise sanitaire, il est absolument nécessaire de pouvoir construire des nouveaux logements. Aujourd'hui, nous sommes en capacité à peu près de construire entre 500 et 700 logements par an. On a une ambition d'en construire 4200 nouveaux en solde net, c'est-à-dire en tenant compte de ce que l'on va détruire et réhabiliter et puis reconstruire un nouveau. Donc, pour porter effectivement notre ambition de à peu près 18 000 logements jusqu'à 20 000 logements, donc sur la période 2020-2026. Donc construire le logement social, mais aussi réhabiliter, on en a parlé tout à l'heure, pour faire face donc aux enjeux écologiques d'aujourd'hui et
aux nouvelles normes.
Et surtout, souvent, on en parlait dans l'histoire, les années 60, des appartements, des logements qui sont aujourd'hui, parfois pour certains, des passoires énergétiques. Donc, il faut se mettre en conformité avec la loi, il faut travailler sur les réhabilitations, et ça, c'est à peu près 3000 logements qui nous restent encore réhabilités sur le parc toulousain. Et puis, il y a un troisième volet, c'est, je crois qu'il faut lutter aussi contre la gentrification, et moi, j'ai envie de dire que les gens qui ont envie de vivre et travailler sur Toulouse ont besoin d'avoir une offre qui corresponde
à leur revenu, à leurs moyens.
C'est ce qu'on appelle l'action sociale à la propriété. Donc, permettre à tout un chacun de pouvoir acheter son logement ou de pouvoir effectivement avoir droit à un logement à un logement social. Donc ça, c'est important, ça fait partie de la politique que nous menons aussi au niveau de la métropole. Et il y a un dispositif qui s'appelle Bail Réel Solidaire que permet la loi Leilan, effectivement, et qui permet, avec la création d'offices fonciers solidaires, de pouvoir en fait vous distinguer le bâti du foncier, ce qui permet d'avoir un appartement à l'accession sociale à propriété beaucoup moins cher, entre 30 000 et 40 000 euros en moyenne sur un T2, T3 qui en coûte 150 000 par rapport au prix normal, parce que vous dissociez l'habitat du foncier. Donc ça, c'est une politique que nous encourageons. Nous sommes en train de créer un office métropolitain, donc au niveau de la métropole, avec c'est à peu près une ambition de 200 logements par an. C'est un peu à la marge, mais ça complète l'offre dont je parlais tout à l'heure. C'est entre 500 et 700 logements que nous avons l'ambition de créer sur cette mandature par an.
Alors, il y a une chose aussi qui accompagne l'histoire de Toulouse Métropole Habitat, c'est l'évolution de la sociologie toulousaine. Et aujourd'hui, on le sait, il y a de plus en plus de familles monoparentales, il y a de plus en plus de personnes isolées, il y a un vieillissement de la population qui peuvent entraîner, la conséquence c'est une certaine baisse de la mobilité résidentielle, il y a des gens qui aspirent à avoir des propriétés sous forme de pavillons. Comment ces contraintes, ces nouvelles données sont intégrées dans vos réflexions à Toulouse Métropole Habitat?
Alors, vous avez parfaitement raison. Effectivement, il faut essayer d'avoir une offre qui corresponde à toutes les ambitions des populations qui sont concernées. Il y a la possibilité, alors, dans le centre-ville, de plutôt monter un petit peu les immeubles. C'est ce qu'on appelle finalement un urbanisme de projet, mais d'avoir plus de verre, plus de terrain autour où on peut effectivement planter, végétaliser. Et ça fait partie...
On le voit dans tout ce qui se construit aujourd'hui à Toulouse, si on regarde un peu.
Et particulièrement au niveau de Toulouse Métropole Habitat, parce qu'il nous semble important de pouvoir végétaliser en fait nos immeubles. Donc dans toute nouvelle construction, on y travaille beaucoup. Et même dans les anciennes constructions, on a une politique de végétalisation avec des jardins partagés, avec des jardins potagers. Donc je peux citer par exemple sur Scotto, Vincent Scotto, qui est un immeuble assez connu, avenue de Grande-Bretagne, où il y a des jardins partagés. Tout ça correspond aux ambitions qu'on seconde. Et puis ensuite, il y a une répartition. Effectivement, chaque fois qu'on peut construire des petites maisons, par exemple sur quand on va réhabiliter Papus, autour du cœur de cité de Papus, il y a un certain nombre de maisons qui vont être reconstruites, des maisons neuves avec des prix accessibles, accession sociale à la propriété, qui correspondent aussi à une demande. Donc dans cette cité jardin qui est historiquement dans un quartier bagatelle, l'idée de pouvoir reconstruire ces maisons avec des petits jardins, ça correspond aussi à une demande, et donc Toulouse Métropole Habitat a cette possibilité d'offrir cette action sociale à la propriété dont je parlais tout à l'heure. On essaie, dans tout ce que l'on développe, de tout ce que l'on met en place sur Toulouse Métropole Habitat, parce qu'on rénove, on construit, on est aussi maître d'œuvre, maître d'ouvrage sur certaines réalisations.
C'est tous les métiers.
Parce qu'on ne s'imagine pas un office public d'HLM. En fait, c'est comme une société, c'est une société publique d'office d'HLM. Et il y a tous les métiers. On a même une régie intégrée, donc qui permet, on a voulu garder cette régie intégrée, d'avoir un service pour les locataires approprié, qui soit disponible 24 heures sur 24 avec le pass et pouvoir faire les réparations le plus rapidement possible. Donc tout ça fait partie du service et de la qualité que l'on propose donc à nos locataires. Et puis pour terminer sur l'histoire de ces habitats, en fait tous différents, il y a aussi la cité de la Sépierre qu'on est en train de réhabiliter complètement. Et toujours pareil, le même principe, des vieilles maisons qui étaient des passoires énergétiques que l'on casse et on reconstruit à neuf des maisons aux normes pour la cité jardin de la Cépière. Donc voilà deux exemples d'intégration et qui correspondent à la demande de nos locataires aujourd'hui.
Alors, vous le soulignez au passage, au début de votre dernière intervention, là, on construit aujourd'hui plutôt vers le haut des petites résidences de 2-3 étages. Et ça s'inscrit aussi dans le choix qui a été fait à Toulouse et à Toulouse Métropole de ne pas construire en étendant, si on peut dire, l'habitat, mais plutôt de construire vers le haut pour préserver des zones naturelles et des zones sauvages dans la métropole.
C'est exactement ça, ce qu'on appelle la densité modérée, en fait. Voilà. Bon, on privilégie de monter un petit peu, et à ce moment-là...
On privilégie les
espaces verts autour et on crée des espaces partagés, des jardins potagers et on plante des arbres. Et ça, c'est une demande que j'ai faite au service de Métropole Habitat pour pouvoir amplifier cette politique, ce qui correspond aux attentes des gens.
Petite précision aussi concernant l'extension géographique des activités de l'office depuis 2016. C'est-à-dire, historiquement, ça s'appuyait sur deux communes, en fait, Toulouse et Blagnac. Et maintenant, l'action de l'office atteint vraiment toutes les communes de la métropole, même un petit peu au-delà, d'ailleurs.
Alors, historiquement, oui, ça va un petit peu, on va dire, sur l'aire urbaine toulousaine. En fait, c'est un développement d'opportunités. Il y a eu des opportunités de créer, effectivement, des HLM ou des petites maisons dont vous parliez tout à l'heure dans certaines communes, et on les a saisies. Par contre, effectivement, notre office est plutôt métropolitain et on renforce quand même cette idée de travailler sur la métropole. Et notamment, on parlait tout à l'heure de moyens, parce que pour construire, développer ou réhabiliter, il faut effectivement des moyens financiers. Et aujourd'hui, la loi finance 2018 nous a quand même pénalisés, puisqu'on est obligé, effectivement, en maintenant nos loyers, de trouver de nouvelles sources de financement, de fonds propres pour pouvoir financer le logement social. Donc, nous avons décidé d'émettre des titres participatifs avec la métropole, ça passera au conseil de juin, pour effectivement dégager des marges financières et des fonds propres pour construire le logement social sur la métropole toulousaine. Donc, ça renforce effectivement nos liens métropolitains.
Alors, je l'ai rappelé au début de l'émission, vous êtes également vice-président de Toulouse Métropole, chargé de la transition digitale. Et là, on va justement parler de ce sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Toulouse Métropole Habitat investit dans la transition numérique, notamment en équipant ses collaborateurs d'outils adaptés à leur mission, mais aussi en proposant des services dématérialisés aux habitants. Globalement, donc, cette transition numérique à Toulouse Métropole Habitat, ça se passe comment? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que vous mettez en place actuellement?
Alors, il ne faut pas opposer, bien sûr, transition écologique et transition numérique. Au contraire, ça marche ensemble. Et c'est un service pour nos locataires. Aujourd'hui, il y a effectivement des personnes, tout le monde a sa tablette, que ce soit les personnes qui travaillent dans les immeubles ou qui vont voir les locataires, pour tout de suite renseigner lorsqu'il y a un problème, une dégradation, un souci quelconque dans une des copropriétés, que ça parte directement donc, ou à la régie ou à ceux qui vont faire les travaux. Donc cette numérisation, elle est importante et ça permet aussi à nos locataires d'avoir un lien plus direct, plus facile avec les... Nous avons 3 agences et en bas de beaucoup de nos immeubles dans le quartier du Mirail, nous avons comme des centres, ce qu'on appelle des pôles, où il y a effectivement des collaborateurs de Toulouse Métropole Habitat. Alors il n'y a pas de concierge, mais qui sont à la disposition effectivement des locataires. Et là, pareil, la numérisation nous permet d'aller plus vite et d'avoir de donner un service plus réactif à nos locataires, et c'est très apprécié.
Alors vous parlez de la végétalisation des espaces publics, qui est un axe fort de l'office. Et entre autres, ça se concrétise à travers le développement de sites d'agriculture urbaine. Mmh. Alors ça, c'est où ça, ces sites d'agriculture urbaine, et ça consiste en quoi?
C'est un peu partout. Alors je peux citer par exemple un exemple récent, c'est au Trois-Coucou. Effectivement, on travaille avec une association qui s'appelle Amilpa. Ce sont des agriculteurs urbains, on peut les qualifier comme ça, et qui permettent effectivement d'avoir des potagers, de cultiver des potagers sur des sites qui appartiennent à Toulouse Métropole Habitat, qui ne sont pas encore ou utilisés, ou parce que bon, construire ça met parfois 2-3 ans, ou qui sont déjà existants et qui permettent d'avoir une activité pour nos locataires et pour les habitants du quartier, puisque souvent c'est partagé. Donc il y en a au Trois-Coucou, je parlais tout à l'heure de Vincent Scotto, il y en a aussi à la Cartoucherie, enfin, pour ne citer que cela, mais il y en a un peu partout, et ça permet finalement de répondre à ses attentes. Et puis, notre métier, c'est pas un métier d'agriculteur, mais on préfère déléguer avec des associations, avec des personnes qui sont parfaitement qualifiées, qui connaissent les légumes, les plantes et tout cet environnement. Et ça nous permet d'avoir finalement un service en plus pour nos locataires.
C'est vraiment quelque chose qui se développe, à tel point que vous avez reçu un prix.
Oui,
En 2018.
C'est ça, on a reçu un prix en 2018. Alors, c'était pas inattendu, mais c'est vrai que bon, ça a pu permettre de mettre en avant l'office public d'HLM et d'être que finalement un peu une référence dans ce domaine, parce que je crois qu'il y a beaucoup de bailleurs qui nous ont suivis depuis, qui font un petit peu...
Oui, c'est ce que vous avez été un peu pilote.
Voilà, on a été pilote. Avez... Mais on est pilote, on est leader, donc finalement, on essaie d'avancer le plus vite et le plus loin.
Le prix de l'innovation sociale HLM, voilà. Lors du 79e congrès HLM en 2018.
Voilà,
et puis initiative associée aussi à des efforts d'autoproduction d'électricité. Et j'ai vu qu'il y avait un contrat d'entretien multiservice qui avait été instauré, qui là aussi a valu, semble-t-il, à l'Office un prix, en tout cas une distinction. Oui. Dans le domaine de l'économie circulaire.
Tout à fait. On est très investi aussi dans toutes ces nouvelles perspectives avec l'économie circulaire. En fait, l'idée, c'est aujourd'hui, on parle même, par exemple, vous ne l'avez pas cité, mais on réfléchit aussi sur comment, avec les data, avec la donnée, transformer. Vous savez que la donnée, c'est l'énergie, on en parle suffisamment assez, et
oui.
Transformer cette énergie pour chauffer nos immeubles. Donc, on réfléchit aussi. Alors, on a tout un programme qu'on appelle en interne un team de 2050, c'est se projeter à 30 ans. Vous en parliez tout à l'heure, et dire qu'on a toute une démarche écologique pour essayer, à travers l'économie sociale et circulaire, à travers l'écologie, à travers, comme je viens de dire, comment utiliser finalement l'énergie des ordinateurs ou des data, de la donnée, pour pouvoir chauffer nos immeubles, de réfléchir collectivement avec toutes les équipes pour faire les immeubles de demain et pour fournir un service moins cher. L'idée, c'est toujours ça, et en réutilisant effectivement ce qui est à notre portée pour faire des circuits courts finalement. Il n'y a pas que des circuits courts dans l'alimentation, il y a des circuits courts aussi dans la construction. Alors, ce que font certains promoteurs ou que ne peuvent pas faire certains promoteurs, nous, étant office public d'HLM, donc service public, on essaie de le mettre en place dans nos constructions.
Et ces fameuses résidences à énergie positive.
Les résidences à énergie positive.
C'est ça l'objectif.
D'ailleurs, à ce propos, on est en train de réhabiliter aussi, par exemple, un immeuble au Pradette, qui était une véritable passoire énergétique. On a investi quelques millions d'euros pour réhabiliter et en réfléchissant avec toutes ces nouvelles technologies.
Alors, dernière chose, un plan d'investissement de 900 millions sur 5 ans dans le cadre du plan de relance.
Ah ben oui, parce que malheureusement la crise sanitaire nous a mis au devant de quelques difficultés et avec la nécessité de loger de nouvelles personnes sur Toulouse Métropole. Et donc, il a été décidé, dans le cadre du plan de relance, 900 millions d'euros sur 5 ans. Donc, l'office public va investir 900 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, pour relancer la construction et pour essayer de répondre à la demande. Parce que les indicateurs, aujourd'hui, autant pendant l'année que nous venons de vivre, qui a été compliquée, les gens n'ont pas trop... Il n'y a pas eu trop de mobilité parce qu'ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. On commence à voir arriver des nouvelles personnes qui font des demandes de logements sociaux avec la crise sanitaire, les entreprises qui malheureusement se sont arrêtées, ou les petites entreprises ou les artisans, et il faudra bien loger tout le monde. Donc on a vraiment ce devoir en tant qu'office public de pouvoir trouver des solutions de logement. C'est pas du logement d'urgence, mais c'est du logement qui va arriver à court terme finalement.
Assez court terme. Il est l'heure de conclure ce numéro. Merci beaucoup d'en avoir été l'invité, Bertrand Serpe, et de nous avoir conté l'histoire de Toulouse Métropole Habitat, l'office public de l'habitat de Toulouse Métropole que vous présidez et qui fêtait donc le 2 avril dernier ses 100 ans d'existence. Une histoire très liée à l'évolution sociologique et urbanistique de Toulouse et, comme on a pu le voir, une histoire qui continue aujourd'hui alors qu'une nouvelle période s'ouvre. J'espère que le rôle, les missions et les actions de Toulouse Métropole Habitat seront mieux connues et plus claires pour nos auditeurs après cette émission. Pour ceux qui voudraient en savoir plus et avoir d'autres informations, je signale le site web de l'établissement, consultable à l'adresse www.toulouse-métropole-habitat.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous. Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.